Chapitre 6. Nicolas foula en premier le lino au marron passé. Il aurait préféré un autre légiste que Paul Chesnay. L'homme, aux pieds enfoncés dans des crocs bleu ciel, avait autopsié Camille. Il avait charcuté son amour, avait extrait un à un ses organes, ou ce qu'il en restait, pour les découper, les abandonner sur une balance ou dans des bacs en plastique. Bélanger se contenta de le saluer poliment et présenta sa nouvelle coéquipière. Sans plus attendre, ils se regroupèrent autour du corps dont un orteil était décoré d'une étiquette. Assisté d'un second médecin, Chesnay l'avait déjà nettoyé, pesé, mesuré et passé au scanner. À leur arrivée, ils consultaient d'ailleurs les radiographies sur écran. Sujet masculin, type caucasien, environ 1,70 m et 70 kilos. Brun aux cheveux courts, âge à faire estimer par l'anthropo, mais je dirais entre 25 et 35 ans. Corps ayant séjourné nu en milieu humide extérieur, à l'abri du vent, à une température de l'air variant entre 9 et 13 degrés dans la nuit de lundi à mardi. Un pas en retrait, Audra avait croisé les bras et gardé les lèvres entrouvertes pour respirer par la bouche. Le légiste n'avait pas proposé de baume mentholé, mais juste un masque et des gants pour les microbes. Rigidité quasi maximale à date de réception du corps, mardi 7 novembre 2017 à 15h30. Température interne de 17 degrés, soit supérieure à celle du milieu ambiant. J'ai fait quelques calculs et jeté un œil aux abacs. D'après les premières estimations, la date de la mort remonterait à la veille de la découverte, le lundi 6, entre 22 et 2 heures. Audra fixait le visage démoli. De l'eau gouttait encore de la cavité oculaire droite, comme si l'homme pleurait. Le légiste avait dû le rincer au jet pour le débarrasser de sa boue. Elle perçut un bourdonnement dans ses oreilles, une résonance grave incrustée au fond de sa tête. C'était la voix du médecin. Chesnay s'attaquait désormais à l'examen externe. Il mesurait, décrivait chaque plaie dans son téléphone pour enregistrement. La jeune femme secoua la tête et ne lâcha plus le corps des yeux. Elle devait se concentrer, rester dans cette pièce avec eux et ce cadavre, et affronter ce nouvel examen comme elle l'avait déjà fait des dizaines de fois. Cloison nasale écrasée, pommette fracturée, liquide extrêmement corrosif versé sur le visage, non-dissolution des graisses, ce qui oriente vers l'acide. Mais la toxico va confirmer. De l'acide, songea Nicolas. L'assassin n'y était pas allé de main morte. Avait-il cherché à effacer l'identité de sa victime? Ou était-ce une volonté de détruire, anéantir un visage? Marques défensives sur les avant-bras et les mains, traces de liens évidentes aux poignets et aux chevilles, antémortem. Auriculaire gauche amputée au niveau de la deuxième phalange, mais c'est une opération ancienne vu la cicatrisation. Ongle de l'index gauche arraché, prélevé sur la scène de crime. Présence d'un tatouage sur la surface interne du poignet gauche. Nicolas, de l'autre côté, se pencha davantage. De quel genre le tatouage? Grossier. Du genre qu'on se fait soi-même avec de l'encre de Chine noire, et récent vu l'état des cicatrices. Il s'agit d'une date. 7-11-2017, 17h02. Nicolas fit le tour de la table pour constater de lui-même. Un choc. Un homme est mort hier devant le bastion à 7 heures précises, en nous remettant une lettre de menace, le 7 novembre 2017 à 17h02. Le légiste tenait la main et scrutait le bout de l'index. « On l'a reçu tôt ce matin. Il venait de Bichat, c'est ça ?»« Oui. On avait appelé les secours au bastion. Il semblait mort d'une crise cardiaque, mais avec les yeux injectés de sang. » On verra bien. Il est au planning. Je m'en occupe en fin de journée. Drôle de coïncidence, ton truc, en tout cas. Nicolas prit le tatouage en photo. Comment parler de hasard? Comment un homme pouvait porter sur l'avant-bras la date à la minute près de la mort d'un autre, qui plus est, décédé une journée après lui? Et pourquoi s'imprimer une telle marque indélébile sur le corps? Il jeta un œil vers Audra, restée immobile et attentive. Difficile de deviner si elle allait bien ou non. Son visage semblait recouvert d'une couche de cire, semblable à ces corps qu'on repêche dans les canaux après un court séjour dans l'eau. « Tu as remarqué la petite cicatrice entre le pouce et l'index ?» fit Chesnay. « C'est curieux. On dirait une trace d'injection, mais avec une grosse aiguille. J'ai remarqué la présence d'un corps étranger au scanner. On va voir ça. » Le médecin s'empara de son scalpel et opéra une fine incision. Sa lame buta alors contre un minuscule tube en plastique, à peine plus gros qu'un grain de riz. Il le pinça avec délicatesse, le frotta sur la manche de sa blouse et le présenta à la lumière. Il était transparent, rempli de composants électroniques miniatures. Ça ressemble à une puce électronique. Nicolas et Audra observèrent l'objet. Une puce sous la peau ?
Je ne savais même pas qu'on pouvait se faire implanter ça. En dehors des films de science-fiction, j'entends. En tout cas, l'implantation est artisanale. Ce n'est pas le genre de truc qu'on pratique à l'hôpital.
Le légiste la plaça dans un sachet qu'il remit à Nicolas, puis alla chercher une équerre graduée sur la paillasse avant de poursuivre son examen. Lésion mutilante avec perte tissulaire. Arcade longue avec une zone antérieure intercanine étroite. Canines qui ont causé de profondes lacérations. Certaines atteignent l'os, ayant déchiré muscles et tendons. Zone de l'hypochondre droit ouverte, déchirée même. Une partie du foie a été excavée et dévorée. Morsure non humaine. Chesnay demanda à son collègue de tamponner les lèvres des plaies qu'il indiquait avec un écouvillon alors que Nicolas s'interrogeait sur le foie. Pourquoi avait-il été sorti des entrailles de la victime ?
Test à l'amylase requis. Pour confirmer la présence de salive animale, on en détecte toujours un peu s'il y a eu morsure, même avec des conditions météo abominables. Et si tu peux découper les plaies, ces trois-là pour la napate.
Il plaça son équerre à proximité d'une blessure particulière à la cuisse droite.
C'est assez hors norme, je dois dire.
Il la photographia en gros plan, puis revint vers le cou. Griffure sous le menton, typique du prédateur qui pousse la tête en avant lorsqu'il sent son accroche faiblir. Extrémités telles que pieds, jambes, mains et bras fortement attaqués. Échymoses de teintes précoces, rouges et bleues, elles sont probablement antémortem, à confirmer plus tard par la transillumination. Tout cela est en accord avec les marques défensives. Le sujet a été attaqué vivant, par un seul animal, vu la taille uniforme des morsures. Certaines autres blessures, comme celle au foie, sont plutôt post-mortem.
« À quel animal vous pensez ?»
demanda Audra. Chesnay leva la main en signe de patience. Il poursuivit ses descriptions, s'intéressa aux lividités cadavériques, supposa que la mort provenait de la déchirure au niveau de la gorge et qu'ensuite, une fois l'individu décédé, le foie avait été sorti. Nicolas se dit qu'il s'agissait peut-être d'une mise en scène ou d'un rituel quelconque de l'assassin. Le légiste effectua quelques prélèvements sous les ongles, cheveux, à destination de la toxico. Selon lui, le visage avait été broyé, explosé après la mort avec un instrument lourd comme une barre de fer ou une batte, puis dissous à l'acide. Audra se battait pour rester droite, mais les bourdonnements revenaient en force. Ses mains sous ses gants étaient trempées, des gouttes perlaient dans son dos, malgré la climatisation glaciale. Le légiste leur fit signe de venir à ses côtés. « Regardez, il y a eu une prise à la gorge, puissante, profonde. Je verrai en ouvrant, mais à mon avis, il a dû se vider de son sang, et c'est ce qui a causé la mort. » Auquel cas, la scène du crime est aussi le lieu du crime. Mais ça, on s'en doutait un peu.
« À quoi tu penses ?» questionna Nicolas.
« Je vais demander l'avis d'un véto. A priori, j'aurais mis ma main à couper que c'était un chien, une race puissante, genre Staff ou Pitbull.
Il m'est arrivé d'ausculter des victimes attaquées par ce genre d'animal quand j'avais ma consulte à Pompidou. Ils ont une forme de morsure particulière, une mâchoire très large, des canines assez courtes comme ici, et ils sont capables de t'arracher la moitié du mollet.
Et pourquoi ce ne serait pas ce genre d'animal ?
Chesnay emmena les policiers devant l'écran d'ordinateur à côté d'une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure de l'IML. La pluie grésillait sur la vitre, troublant le silence des morts. Il afficha différents clichés. Fracture du tibia au niveau de la morsure. Idem au cubitus et au radius. Ce truc lui a carrément broyé les os. Même un pitbull ne ferait pas autant de dégâts. Puis il y a cette taille de mâchoire. C'est en dehors des clous.
Quoi alors ? Un renard ? Un loup ?
Non, non. Leurs formes de mâchoire sont plus étirées, plus fines. Je vous confirme ça dès que possible avec le veto.
Un quart d'heure plus tard, le légiste passa à l'examen interne. Incision thorax-abdomen, cavité pelvienne, et crâne, éviscération. Le tout dans des gémissements de scie sternale, des murmures de scalpel, des baisers d'acier sur la peau tendre et marbrée de bleu, de mauve, de jaune. Audra glissa trois chewing-gums à la menthe d'affilée au fond de sa bouche. Nicolas, lui, ne regardait ni Chesnay ni le corps. Il repensait aux photos de la scène de crime, à l'ongle fiché dans le bois de la palette. Avait-on laissé cet homme se faire dévorer par un animal au fond de la fosse avant de lui refaire le portrait et de lui ouvrir le ventre pour en arracher un bout de foie ? Qui avait assisté au massacre ? L'individu avait dû souffrir le martyre. Puis on l'avait mutilé et abandonné dans la boue et sous la pluie glacée. Et ce tatouage incompréhensible, macabre prédiction. Le flic sentit rouler le feu au creux de son ventre, cette énergie nécessaire pour qu'il se lance corps et âme dans une enquête. La traque commençait. Chesnay confirma la mort par arrachage de la carotide. Le sang de l'artère avait giclé sous la pression. Le cœur battait encore à ce moment-là. Une fois les organes pesés, découpés, les divers prélèvements effectués, il remit tout en place comme au jeu du docteur Maboul. Sutura, histoire de redonner au sujet un minimum d'humanité. Difficile avec un visage dans cet état. Cette personne devait manquer à quelqu'un. Et ce quelqu'un viendrait ici, un jour, pour tenter de l'identifier et peut-être de l'enterrer avec dignité. L'examen terminé, Nicolas rangea dans sa poche le scellé contenant la puce, puis reprit la direction de la sortie accompagné d'Audra. Une fois dehors, la jeune femme respira un grand coup et redressa la tête. L'horizon n'allait pas plus loin que les tours de verre de Bercy, digne d'un décor post-apocalyptique. Le froid des gouttes sur sa peau l'apaisa et chassa l'odeur de viande faisandée et de gaz intestinaux dont ils étaient imprégnés. Nicolas sortit une cigarette et l'alluma sous l'abri du porche. « Compliqué ? » fit-il en lui proposant une cigarette. Elle déclina et consulta un message sur son téléphone qui venait de vibrer. « La boucherie n'est pas ce qui me plaît le plus dans le métier, on va dire, et celui-là était particulièrement corsé. »
« Je ne parlais pas de l'autopsie. »
Elle ne répondit pas. Pianota, avec des gestes vifs et précis, un grand sourire dévoilant des dents bien plantées, et rempocha son engin. L'espace de quelques secondes, son visage avait volé le peu de lumière pâle que leur offrait le ciel. Nicolas se rendit compte qu'il la fixait avec insistance. Il détourna la tête, consulta son propre téléphone.
« Personne n'aime la viande froide, à vrai dire.
T'es en voiture ?»«
Métro. »«
Ok, allons-y alors. »
Il écouta le message laissé par Charcot.
« C'est moi. Après l'autopsie, amenez-vous et vite. C'est le site internet. Ça bouge. »
Il raccrocha et, une fois dans la bouche de métro, se connecta à l'adresse enregistrée dans ses favoris. Ce qu'il découvrit lui fit presque manquer la rame qui arrivait.